Voici ce que nous lisons. Voici le contenu de la lettre que Jérémie, le prophète, envoya de Jérusalem au reste des anciens, en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple que Nebuchadnezzar avait emmené captif de Jérusalem à Babylone. Après que le roi Jéconia, la reine, les eunuques, les chefs de Juda et de Jérusalem, les charpentiers et les serruriers furent sortis de Jérusalem, il remit cette lettre à Éléasa, le fils de Chaphan, et à Gemaria, fils de Hilkija, envoyé à Babylone par Sédécias, roi de Juda, auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Elle était ainsi conçue, cette lettre. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons, habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai emmené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Je relis ce verset. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos rêveurs dont vous provoquez les rêves, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai pas envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Je veux, chers amis, vous parler de l'épître de Jérémie. Vous connaissez l'épître de Paul aux Galates, par exemple. L'épître de Paul aux Colossiens, par exemple. Mais connaissez-vous l'épître de Jérémie ? Une épître, c'est un mot qui veut dire une lettre. Je le dis pour les plus jeunes, parce que ce sont des mots qu'on utilise peu aujourd'hui. Mais c'est de cela qu'il s'agit. Cette épître de Jérémie vous paraît peut-être courte, mais il me semble qu'elle est essentielle. Elle est essentielle parce que elle est adressée à des personnes qui sont en captivité, je crois que vous l'avez compris. Et je voudrais, par la carte qui vous est projetée, vous expliquer un tout petit peu la situation, le contexte dans lequel cet épître est écrit. Jérémie, c'est quelqu'un qui est né vers 640 avant Jésus-Christ. Et c'est quelqu'un qui est né à une période troublée. Regardez cette carte, c'est presque comme si vous la voyiez aux informations du 20h. Les temps n'ont pas changé. Il y avait, à l'époque de la naissance de Jérémie, un royaume qui dominait tous les autres, la Syrie. Et ce royaume a perdu son roi qui s'appelait Assurbanipal. Cette période de perte du roi est une période un peu de faiblesse pour ce royaume d'Assyrie. Tant et si bien qu'un autre royaume, ici, le royaume de Babylone, va profiter de cette faiblesse pour s'engager sur les terres, sur le territoire du royaume d'Assyrie. La Syrie a besoin d'aide. Elle fait appel à l'Égypte, qui va alors vouloir prendre le royaume de Babylone, dirigé par Nebuchadnezzar, en tenaille. Au milieu, Israël. Le roi d'Israël, qui à cette époque, on est en 612, je crois, avant Jésus-Christ, je vérifie rapidement, le roi d'Israël, c'est Josias, ne voit pas d'un bon œil qu'on traverse son pays, que les armées égyptiennes traversent son pays, pour aller prêter main forte à Babylone, pardon, à la Syrie contre Babylone. Il s'impose donc au passage des armées d'Égypte, et puis il est battu. Josias est battu ainsi que toutes ses armées, à Megiddo. C'est la catastrophe. L'histoire nous apprend que Babylone vaincra la Syrie, vaincra l'Égypte et envahit Israël. Aujourd'hui, je disais, quand vous ouvrez les informations à 20h à la télévision, c'est ces cartes-là qu'on vous montre toujours. C'est ces cartes-là où les pays s'affrontent toujours. C'est cette région qui est toujours la coupe d'étourdissement pour le monde. Et nous sommes 600 ans avant Jésus-Christ. Nous sommes plus de 2000 ans après Jésus-Christ. La coupe d'étourdissement n'a pas changé de place. Elle est toujours là. Donc un contexte particulièrement difficile, parce que Jérusalem s'est trouvée encerclée par les Babyloniens, parce que Jérusalem a été mis à feu, à sang par les Babyloniens, et parce que sa population a été déportée, notamment tous ceux qui avaient du talent, tous ceux qui avaient des responsabilités, tous les dignitaires, avec hommes, femmes, enfants, bagages, tout le monde doit quitter le territoire. C'était des pratiques qui étaient en cours à l'époque, où les vainqueurs prenaient les populations, les emmenaient ailleurs pour éviter toute rébellion ultérieure. Je rappelle que l'Union soviétique a fait exactement de la même manière. Et c'était bien après. Les stratégies de conquête n'ont pas changé. On prive les gens de leurs racines. On les déporte. Ou on les contraint à fuir. Regardez tout ce qui s'est passé au Moyen-Orient à propos des chrétiens qui y vivent. Mais c'est dans ces régions, c'est dans ces régions que tout a eu lieu. Et c'est toujours là qu'ont lieu les conflits très puissants actuellement qui troublent, comme vous le savez, le monde et l'Europe également. Je disais donc un contexte difficile, des gens qui ont perdu la racine, qui sont partis en déportation. Mes chers amis, en période de guerre, s'il y a bien quelque chose qu'on attend, c'est une lettre. Une lettre de ceux que l'on aime. Alors on a peut-être perdu l'habitude d'écrire de façon manuscrite aujourd'hui. On s'envoie des mails, ou des courriels, ou des SMS. Mais je suis convaincu que s'il fallait que nos pays européens connaissent de nouveau des temps troublés, on reviendrait à l'écriture manuscrite pour de nouveau essayer de se donner des nouvelles. Et dans ce contexte troublé, eh bien, Jérémie choisit d'écrire. Il veut leur parler de la part du Seigneur. Dites-moi, vu le contexte historique que je vous ai dépeint, quel pouvait être l'état d'esprit de ces déportés? D'après vous, eux qui avaient dû tout quitter, l'endroit où ils vivaient, les endroits qu'ils connaissaient, la terre de leurs ancêtres, dans quel état d'esprit pouvaient-ils être? C'est pas difficile à comprendre. Ils étaient certainement dans l'abattement. Ils étaient dans les larmes. Ils étaient dans le découragement. Pouvaient-ils espérer seulement avoir quelques nouvelles de la famille ou de la partie de la famille qui était restée à Jérusalem? Je vois ma sœur qui a de l'âge et qui hoche la tête. Mais vous avez raison. Vous me faites penser, en vous voyant, madame, à mon arrière-grand-mère, dont le père, mais c'est pas, je ne prenais pas ça mal, je voudrais au contraire que ce soit bien pris, mon arrière-grand-mère qui vivait dans la région de Troyes pendant la Première Guerre mondiale et dont le mari avait été arrêté comme soldat par les armées allemandes et déporté en Allemagne. Elle se retrouvait seule, avec trois enfants à la maison, ne sachant pas ce qu'était devenu le mari. Et sincèrement, elle n'avait, j'allais dire, que pour seule force, la prière. En plus, sa maison avait flambé. Elle s'était retrouvée toute seule, trois enfants, plus de demeure. Elle avait donc été accueillie par des voisins. Mais elle priait pour son mari qui avait été arrêté et fait prisonnier. Elle intercédait pour lui. Elle avait l'espérance que seul le Dieu Tout-Puissant pouvait prendre soin de lui. Et un jour, elle reçoit une lettre. Une lettre de son mari. C'était au moins plus d'une année après. Et dans cette lettre étaient inscrits ces mots. « Louise, s'il te plaît, envoie-moi une serviette comme celle que j'aime, parfumée au parfum qui est le masculin de ton nom. Je t'en remercie, que Dieu te bénisse. » Elle s'est dit, mon pauvre mari, il est devenu fou. Sa déportation lui a tapé sur le système. Qu'est-ce qu'il est devenu? Qu'ont-il fait de lui? C'est toute cette inquiétude qui montait à son cœur. Et elle s'est jetée à genoux, encore une fois, elle a crié à Dieu, elle dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il veut me dire? Et en pleine nuit, elle fut réveillée avec la pensée suivante. Il aimait les serviettes nid d'abeilles. Alors celles qui font de la, qui aiment les tissus savent comment ce sont des tissus blancs avec des creux. Il aimait les serviettes nid d'abeilles. Elle dit, mais il est fou mon mari, il n'a jamais aimé les parfums. Et là, il veut que je la parfume avec le parfum qui est le masculin de mon nom. Je m'appelle Louise, le masculin c'est Louis. Ah oui, il avait ajouté, que ce parfum soit blanc ou qu'il soit jaune, cela n'a aucune importance. Elle réfléchit et elle pense, il veut un louis d'or ou un louis en argent. Elle eut l'idée de préparer la serviette, de faire un ourlet et de coudre dedans un louis d'or, qu'elle envoya dans un petit paquet avec quelques gâteries pour son mari. L'histoire de ma famille m'apprend que le paquet parviendra à mon arrière-grand-père qui était en camp de détenus en Allemagne. La boîte avait été vidée de tout son contenu, sauf de la serviette. Avec le louis d'or, il acheta la sentinelle, ce qui lui permit de fuir. Et en 1918, peu de temps avant la fin de la guerre, mon arrière-grand-mère dans sa campagne, eut la joie.
Pardonnez mon émotion, je n'ai pas connu l'événement, mais voyez,
eut la joie de voir la silhouette de son mari se détacher au bout du chemin qui menait à la ferme. Il était de retour. Si je vous raconte ça, c'est pour vous donner l'état d'esprit des déportés. Quand on a tout perdu, on ne peut plus compter que sur l'Éternel. Et c'est cela que Jérémie veut faire passer comme message à ceux qui sont abattus, qui sont dans les larmes, qui sont dans le découragement. Ils se sentent étrangers sur une terre qu'ils ne connaissent pas, dans une ville qu'ils ne connaissent pas, qui pour eux, Babylone, symbolise tout ce qu'il y a de pire. Ils sont en total décalage avec la société païenne dans laquelle Dieu va dire dans cette lettre « Je vous ai déporté ». Je vais y revenir. Alors, regardons ce qu'elle contient, cette lettre. Un contenu, je vais marquer inattendu. Le premier message peut se résumer ainsi, c'est « Installez-vous ». Parce que cette lettre commence « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à vous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. » Et là, Dieu est en train de dire, vous pensez que c'est Nebuchadnezzar qui vous a envoyé là-bas? Mais c'est moi. C'est moi. Mais la révolte que ça a dû susciter dans les cœurs de ceux qui lisaient ça. Mais ce n'est pas possible, ô Éternel. Et le premier message de Dieu, c'est bâtissez des maisons. C'est-à-dire, installez-vous, plantez, mariez-vous, ayez des enfants. Ils n'avaient même pas eu envie de défaire leurs valises. Ils ne voulaient qu'une chose, c'était foutre le camp. Et mon frère, ma sœur qui m'écoute, il est possible que tu sois dans un endroit où tu n'aies qu'une envie, c'est de foutre le camp. Mais le Seigneur te dit ce matin, est-ce que tu es prêt à entendre que c'est moi qui t'ai conduit là? J'ai un de mes amis pasteurs qui m'a toujours impressionné parce que il se rend au Hellfest. Alors moi, s'il y a bien un endroit où je ne me verrais pas aller, c'est au Hellfest, la fête de l'enfer. Hein, vous connaissez peut-être. C'est un festival de hard rock chaque année. Oui, c'est plus que du hard rock, absolument. Et moi, je lui dis, mais comment se fait-il que tu y vas? Mais il me dit, attends Franck, moi, ce que je veux, c'est être la dernière porte de secours avant l'enfer. Si le Seigneur me permet de tenir le dispensaire juste avant l'enfer, je vais être là pour les emmener ailleurs. Ben, sincèrement, ce n'est pas mon appel. Hein. Ou alors, il faudrait que j'y aille avec des boules-quièces, hein, et encore. Mais en y réfléchissant bien, je me suis réjoui que Dieu ait appelé un de ses serviteurs à aller là où, franchement, je ne mettrai jamais les pieds, personnellement. Mais quand j'y réfléchis bien, Dieu m'a appelé à aller là où d'autres ne mettent pas les pieds. Et mon frère, ma sœur qui m'écoute, c'est la même chose avec toi. Dieu t'a appelé à être là où d'autres ne mettront jamais les pieds. C'est donc le premier message de la lettre. Le deuxième message, c'est rechercher le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Réfléchissons là encore. Ils sont à Babylone. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est exactement les valeurs qui sont totalement contraires à ce que eux professent et ce que eux croient. Ils croient en un Dieu unique, Babylone, mais est remplie d'idoles. Ils croient aux 10 commandements. Babylone, c'est l'inverse. Et là, Dieu leur dit, recherchez le bien de la ville où je vous ai déporté. Ils auraient envie de tout faire, sauf ça. Et c'est ce que Dieu leur demande pourtant. Mon frère, ma sœur, Dieu nous demande de rechercher le bien de la ville où nous avons été déportés. Laissez-moi vous dire que dans bien des réunions publiques dans lesquelles je vais et je participe, il m'est arrivé de lever les yeux au ciel et de dire, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Mes valeurs sont tellement différentes de mes interlocuteurs. Je me sens étranger. Mais c'est pour ça que Dieu m'a envoyé. C'est parce que je suis un étranger, et même un étrange étranger, dans de telles circonstances. Je dénote totalement. Je ne suis pas dans le costume local. Mes chers amis, vous dénotez là où Dieu vous a placé. Mais c'est normal. Est-ce que vous ne croyez pas que quand il est venu dans les mondes, la parole de Dieu nous dit qu'il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu? Est-ce que ce n'est pas parce que, j'allais dire, il dénotait le Seigneur Jésus? Ce qu'il disait dérangeait, perturbait? Eh bien, ce n'est pas parce que vous ne vous sentez pas de ce monde que Dieu ne vous a pas envoyé dans ce monde. C'est précisément ce qu'il a fait. Et il nous a donné l'exemple. Quittant la gloire céleste, la parole de Dieu nous dit qu'il n'a pas rechigné à quitter sa gloire céleste pour venir jusqu'à nous. Mais dites-moi, je dis souvent que dans ce monde, on connaît beaucoup d'hommes qui ont voulu être des dieux. Mais on ne connaît qu'un Dieu qui a accepté d'être un homme. C'est le nôtre. C'est le nôtre. Notre Dieu. Et vous voulez que je vous dise, les grands de l'Antiquité, les Césars, les Napoléons même chez nous, aujourd'hui, leur nom, nous le donnons à nos chiens. César, viens ici! Est-ce qu'ils n'étaient pas les grands de ce monde? Est-ce qu'ils n'étaient pas les grands de ce monde? Et aujourd'hui, leur nom, nous le donnons à nos chiens. J'ai jamais vu qu'on ait appelé un animal Jésus. Par contre, Je suis désolé, je vais reparler des Portugais. Mais j'en ai beaucoup dans mon village. Alors, des Jésus. Eh bien, oui, c'est des maçons. Hein. Des Jésus, il y en a. Et on était fiers de donner à ses enfants le nom de Jésus. Je continue sur cette fameuse épître de Jérémie. Le troisième message, c'est arrêter de rêver. Arrêter de rêver. Il rêvait de revenir à Jérusalem. Mes chers amis, laissez-moi vous dire que parfois nos rêves nous tuent. Et je vous explique pourquoi. Parce qu'ils empêchent le Seigneur d'accomplir par nous les projets de paix et non de malheur dont je vais parler plus tard. Mais comme nous rêvons de retourner à Jérusalem, comme Israël rêvait de retourner en Égypte pour manger les potirons, les melons, les... Eh bien, pendant ce temps-là, il ne faisait rien. Tant que vous rêvez, vous n'agissez pas. Donc le Seigneur, ce matin, nous dit, arrêtez de rêver. Au service. Voilà. Comme il le dit, installez-vous, recherchez le bien de la ville, arrêtez de rêver. Une petite remarque sur le « installez-vous », ça prend du temps. Quand on est jeune, on veut que tout arrive tout de suite et on veut que tout aille vite. Plus on avance en âge, plus on se dit « oh là là, calme, calme ». Tout cela prend du temps, chers amis. Votre église, pour s'implanter dans une ville, pour bénir une ville, ça va prendre du temps. Parce que la confiance prend du temps. Et ça, on ne doit pas l'oublier. Je veux dire aussi quelque chose à propos de cet « installez-vous ». Je m'excuse de revenir en arrière, mais j'y pense là maintenant. Souvent, je parle avec des jeunes qui parfois me disent « Ah, vous savez, oui, on va se marier, mais on ne sait pas si on aura des enfants. Parce que quand on voit le monde dans lequel il va, je leur dis « rassurez-vous, je me suis posé la même question, moi. » Mais que dit le Seigneur ? Vous êtes à Babylone ? Ben, mariez-vous. Hein ? Mais Seigneur, on ne veut pas avoir de gosses. Mais ayez des enfants. Hein ? Pourquoi ? Ben parce que vous allez avoir la clé après. Dieu est un Dieu d'espérance. Et il nous appelle à la foi, à la confiance. Nous y venons. Autre point de la lettre, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. C'est intéressant ce mot projet. En tout cas, moi, j'ai eu de nombreuses discussions avec mes fils, j'en ai trois. L'aîné a 29 ans, le dernier 25 ans. Je disais donc, j'ai eu de nombreuses discussions avec eux parce que souvent, ils priaient en disant « Seigneur, je vais être dans ton plan ». Et moi, je leur disais « Attention les enfants, le mot plan, ce n'est pas un mot biblique, c'est le mot projet. Ce n'est pas la même chose. Plan, tout est écrit. Projet, je vais faire avec vous. Je vais faire avec vous. Le plan, on vous le donne, vous n'avez qu'à le suivre. Le projet, on va le construire ensemble. Est-ce que vous comprenez la différence ? Mon frère, ma sœur, le Seigneur te connaît. Ce n'est pas lui qui t'a formé. Il connaît tes talents. Il veut que tu les mettes à son service et au service de la ville dans laquelle il t'a déporté. Mais pour ça, il va construire son projet avec toi. Tu n'es pas un robot. Il ne te téléguide pas, le Seigneur. Il est celui qui frappe. Et si on ouvre la porte, il entre et il dîne avec nous. Et c'est ce que Gédéon, par exemple, a dû comprendre dans la Bible. Parce qu'il avait une mission particulièrement dangereuse, celle d'intervenir contre l'idolâtrie de son temps. C'était très risqué. Et quand il dit à l'ange qui lui parle, « Mais qu'est-ce que je ferai ?» La réponse de l'ange est surprenante. « Mais tout ce que ta main trouve à faire, fais-le, Gédéon. »« Seigneur, est-ce que je dois aider mes parents à faire la vaisselle ? Est-ce que c'est vraiment toi qui me le demande ?»« Mais tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. » C'est pour le bien commun ? C'est pour le bien de ton église ? C'est pour le bien de ta ville ? Mais fais-le ! Il traîne un papelard par terre sur le trottoir. Mais ramasse-le. Ramasse-le. T'as pas besoin de demander ce que c'est dans ton plan, Seigneur. Moi, dit le Seigneur, j'ai un projet. J'ai un projet. Un projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors, ça pourrait se traduire comme cela. C'est moi, ça, c'est pas la Bible. Arrêtez de regarder le passé comme si vous vouliez toujours y revenir. Occupez-vous du présent. Moi, je m'occupe de votre avenir. L'avenir lui appartient. Et chers frères, chères sœurs qui m'écoutez, ton avenir lui appartient. Le Seigneur nous appelle à entrer dans ce projet fait d'avenir, fait d'espérance, parce que lui, il a la puissance de travailler avec nous et pas sans nous. Je crois qu'il y a 4 instructions précises sur lesquelles je veux vraiment insister. Bâtissez, habitez, plantez, mangez, mariez-vous, engendrez. Recherchez le bien de la ville où je vous ai déporté et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur parce que votre paix dépend de la sienne. Et là, Dieu, en disant cela, rappelle aux déportés qu'une partie de leur bonheur est entre leurs mains. Eh bien, mon frère, ma sœur, une partie du bonheur de notre pays est entre vos mains, entre nos mains. Si nous ne le faisons pas, qui le fera ? Ça a été le questionnement adressé à la reine Esther par son oncle Mardoché. Mais qui sait, reine Esther, si ce n'est pas pour une heure comme celle-ci que l'Éternel t'a placé reine sur ce pays ? T'as été dans le luxe, très bien. Aujourd'hui, c'est ta vie que tu dois risquer pour nous tous. Mes chers frères et sœurs, il a donné sa vie pour nous, oui ou non ? Acceptons-nous de donner la nôtre pour lui et aussi pour notre ville, pour la société aussi dans laquelle nous sommes. C'est pourquoi le CPDA, je l'ai dit hier soir, a lancé une opération Jérémie depuis 2014, où nous invitons tous les chrétiens à prier pour leur ville, votre ville. Je disais hier soir, découvrez qui en est le maire, priez pour lui, et je vous ai expliqué comment. Cette opération Jérémie, nous l'avons lancée parce que nous sommes convaincus, mais convaincus, qu'elle participera au réveil des consciences de notre pays. C'est pour ça que vous voyez une personne en prière pour sa ville. Après, il y a 4, dans cette lettre de Jérémie, il y a 4 instructions qui me paraissent intéressantes à souligner. Ne vous laissez pas abuser par vos prophètes et ne prêtez pas attention aux rêves que vous faites. Ou n'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. Pourquoi c'est important de le dire cela et de l'entendre, puisque c'est écrit dans la parole de Dieu ? C'est important parce que souvent, nous voulons entendre de la part de Dieu ce que nous voudrions entendre. Et je dois vous dire qu'il y a, je le crois, aujourd'hui encore dans l'Église, des faux prophètes. De ces prophètes qui vous disent « Retirez-vous du monde ». Je ne juge pas ceux qui se retirent du monde, certains le font, pour s'adonner à la prière. Autrefois, on appelait cela des ermites. Encore aujourd'hui, le Seigneur a appelé certains de ses enfants, en effet, à se retirer pour la prière et l'intercession. Et je ne juge pas mal du tout ceux qui le font. Ils répondent à un véritable appel de Dieu. Mais ceux qui prophétisent en disant « Ne vous occupez pas de Babylone parce qu'elle est perdue. Je suis désolé, mais Jésus il a fait tout le contraire. C'est parce que le monde était perdu qu'il est venu. C'est parce que nous étions perdus qu'il est venu. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Donc, attention, je crois qu'il y a de faux messages aujourd'hui dans le corps de Christ même. Et ensuite, je disais, comme on rêve parfois de ne rien faire, on écoute facilement ceux qui ont de tels songes. Vous donner un avenir et de l'espérance, c'est une instruction que le Seigneur donne dans cette lettre non seulement aux déportés de Jérusalem, mais je crois qu'il nous donne encore aujourd'hui. Son projet, c'est l'avenir. À retenir et à apprendre par cœur, mais je crois que vous le connaissez, Jérémie 29, 11, on l'a lu ensemble, je le remets en gros, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Donc, je veux conclure. Je veux vous conclure par une parole de Jésus. Et cette parole, nous la trouvons dans Matthieu, chapitre 24. Jésus use d'une parabole. À partir du verset 45, je vous lis cette parabole. « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. » Chers amis, le Seigneur veut nous trouver à l'œuvre quand il reviendra. Et regardez toutes les paraboles. Et là, je suis très sérieux et c'est en même temps un avertissement que je crois la parole de Dieu nous adresse en tant qu'Église de Jésus-Christ. Toutes les paraboles où vous avez le maître qui revient vers les serviteurs, à chaque fois, le serviteur demande des comptes. En disant, qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as fait ? Rappelez-vous la parole des talents. Hein ? Celui qui a fait fructifier ses talents, puis celui qui n'a rien fait, qui a dit, oh là, tu es un maître sévère, alors j'ai tout planqué dans la terre, tiens, voilà ce que tu m'avais donné. Ah oui ? Eh bien, on va te reprendre même ce que tu as. Et Jésus a là une parole qui personnellement m'a interpellé. Je ne dis pas que c'est l'appel de chacun, mais moi, elle m'a bouleversé. Parce que celui qui avait ramené 10 talents, à partir d'un talent, vous savez ces mots, hein, mais moi, ça m'a bouleversé. Jésus a dit, reçois le gouvernement de 10 villes. À celui qui a ramené les 5 talents, il a dit, toi, reçois le gouvernement de 5 villes. Et moi, je me suis dit, attends, Seigneur, ça veut dire quoi ? Si je suis fidèle dans les petites choses, tu peux même m'appeler au gouvernement d'une ville. Je n'étais pas maire à l'époque. Moi, j'ai dit, écoute, je vais déjà apprendre à essayer d'en gouverner une avant de pouvoir en gouverner 5, voire 10. Ça va être compliqué. Et le Seigneur m'a appelé là à gouverner ma ville et à travailler dans la métropole de Rouen où nous sommes 71 villes. C'est quand même beaucoup plus important. Mais bref, parfois nous oublions certains mots du Seigneur. Et là, c'est heureux, heureux, ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. C'est-à-dire à l'œuvre. Un peu plus loin, il est dit, il l'établira responsable de tous ses biens. Alors, chers amis, l'absence du maître, ce n'est pas pour nous, j'allais dire, l'occasion de ne rien faire. Et le fait d'attendre sa venue ne signifie pas que nous devons avoir les bras croisés. Est-ce que je suis clair ? Parce que la parole l'est, me semble-t-il. Alors j'aime bien cette illustration. Je vous rappelle un texte que vous connaissez, « La foi sans les œuvres est morte ». Et j'aime beaucoup ce dessin humoristique sur lequel on voit une cascade, hein, je parle pour l'enregistrement, avec l'eau qui coule, et puis un canoë juste en haut de la cascade avec 2 hommes à l'intérieur qui se font face. Et l'un dit à l'autre, « À ton avis, on prie ou on rame ?» Ils sont proches de dégringoler en bas de la cascade. Et qu'en voyant ce dessin, forcément vous réagissez normalement en disant « Mais attends, tu pries et tu rames. » La question, elle ne se pose pas. N'est-ce pas ? Elle ne se pose pas. Alors comment se fait-il que quand notre pays est au bord du gouffre ou que notre société est au bord de la chute, nous, on se barre en criant « Loué soit le Seigneur ». Comment se fait-il ? Lui qui est venu chercher et sauver ce qui était perdu, pourquoi est-ce que nous ne suivrions pas son exemple ? Chers amis, les causes perdues, vous en avez forcément à proximité. Hein. Ça, ce n'est pas l'affaire qui manque. Alors le Seigneur ne nous envoie peut-être pas vers toutes les causes perdues, mais que le Seigneur vous inspire et fasse avec vous son projet de paix et non de malheur. Je crois que c'était la dernière diapositive, en effet. Je veux donc vous laisser cela comme partage ce matin. Laissons la parole de Dieu nous interpeller. C'est la parole de Dieu. Rendez-vous compte que le Seigneur n'a jamais abandonné ni sa création ni ses créatures. Rendez-vous compte qu'il aime à ce point l'humanité qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que ce n'est pas merveilleux cela ? Eh bien, c'est à cela que nous sommes appelés, être des bénédictions pour la ville où le Seigneur vous a placé. Si j'ai le plaisir de vous croiser dans les années à venir, j'aimerais recevoir de votre part le témoignage que le Seigneur a béni l'endroit où il vous a placé, le travail, l'école, le lycée où il t'a placé, le quartier dans lequel il t'a placé. Tu es son ambassadeur. Personne n'a à faire le travail qu'il t'a demandé de faire. C'est à toi de le faire. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous voulons ce matin nous placer devant toi et recevoir cette lettre, cette épître de Jérémie, comme aussi un message de toi pour nos vies. Ô Seigneur Jésus, toi qui n'as pas regardé comme une proie arrachée de quitter son ciel de gloire pour venir nous chercher, nous qui étions perdus. Nous voulons, à ton exemple, avec le secours du Saint-Esprit, trouver la force, l'intelligence, la sagesse pour œuvrer comme tu l'entends. Que ta parole nous éclaire et qu'elle nous inspire dans tout ce que nous allons pouvoir faire ensemble pour la gloire de ton nom. Parce que ton projet, tu nous l'as redit ce matin, ce n'est pas un projet de malheur, mais c'est un projet de bonheur. Loué sois-tu, Seigneur. Amen.